grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Une personnalité difficile est-elle forcément toxique et inversement? Prenons l'exemple d'un collègue avenant, souriant, affable, charmant, apparemment empathique, bref, le gendre idéal, qui porte un masque agréable et pourtant il peut s'agir d'un manipulateur pervers qui salira à dessein votre réputation au sein de votre travail. Mû par l'obsession du pouvoir, cette personnalité toxique usera de tous les moyens pour l'obtenir, prêt à vous blesser sans qu'il avec un but, vous éliminer, exercer une emprise sur vous. Et puis il y a cet autre collègue, narcissique, qui a le sentiment d'être exceptionnel, qui souhaite être le centre de l'attention, qui pense avoir des privilèges par rapport au commun des mortels. Souvent maladroit, casse-pied, cette personnalité difficile n'usera pas forcément des mêmes procédés abjects que le psychopathe social précédemment décrit. Personnalité difficile, personnalité toxique, quand faut-il fuir et quand faut-il s'adapter? Pour y voir plus clair ce matin, le psychiatre François Lelore et Sébastien Boller, rédacteur en chef du mensuel Cerveau et Psycho, notre complice ce matin. Contactez-nous, posez vos questions, témoignez au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Avec nous également Marie-Laure Zonshine de Femme Actuelle qui évoquera notamment les personnalités toxiques au travail. Notre psychiatre Christophe André participera activement à notre conversation. Bonjour Christophe.
Bonjour Ali.
On retrouve vos choses vues vers 10h35, c'est ça?
Absolument, et nous y parlerons de petits pénibles, de gros casse-pieds. Nous appellerons Socrate et Serge Gainsbourg à notre secours et nous réfléchirons aux quatre grandes stratégies possibles face aux personnalités toxiques.
A tout de suite, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rébéi.
Bonjour François Lelore.
Bonjour Ali.
Vous êtes psychiatre et vous avez coécrit avec Christophe André un classique, Comment gérer les personnalités difficiles, disponible en poche chez Odile Jacob. Bonjour Sébastien Boller.
Bonjour Ali.
Vous êtes le rédacteur en chef du mensuel Cerveau et Psycho, à la une, les personnalités toxiques. Alors Christophe André, François Lelore, qu'est-ce qu'une personnalité et quelle est la différence avec le caractère et le tempérament? François Lelore.
Si vous voulez, une personnalité, caractère et tempérament sont des termes assez synonymes, c'est-à-dire c'est un ensemble d'attitudes, de caractéristiques psychologiques qui font qu'on va réagir de telle et telle manière à telle situation. Alors, après on peut faire des différences plus subtiles, mais j'ai en gros personnalité, tempérament, caractère, ça peut s'utiliser. D'ailleurs, persona, vous savez, en grec, c'était le masque que portaient les acteurs. Caractère, on dit caractère en anglais pour dire un rôle au théâtre. Donc on sait tout ce que c'est-à-dire on a tous une personnalité, c'est-à-dire une certaine manière de réagir et de penser face à certaines situations.
Christophe André.
Et ce qu'on peut rajouter à la définition que vient de donner François, c'est que dans ces trois termes autour de la personnalité, il y a deux notions importantes. C'est la notion de stabilité. La personnalité, c'est quand même en théorie quelque chose qui est stable dans le temps, qui n'est pas juste une façon de réagir liée à l'humeur du jour ou à ce qui nous arrive. Et la prévisibilité. C'est pour ça aussi qu'on essaie d'étudier les personnalités, parce que finalement, à pouvoir utiliser le terme de telle ou telle personnalité, ça veut dire qu'on peut supposer que la personne, si on lui dit ça, elle va réagir comme ceci, ou si on lui fait ça, elle va réagir comme cela. Ça n'est pas toujours vrai, hélas, mais en théorie, c'est contenu dans la définition du terme.
Comment la psychiatrie, la psychologie classe les personnalités? Quels sont les outils scientifiques? François Lelore.
Les outils scientifiques, si vous voulez, il y a différents tests de personnalité. Il y a des échelles, par exemple des échelles de narcissisme, dont les résultats montrent d'ailleurs que le narcissisme augmente dans la population générale. De génération après génération. Alors c'est des échelles du style « je pense que je suis supérieur aux autres » et par exemple 80% des élèves des écoles de commerce pensent qu'ils sont supérieurs aux autres. Et puis il y a aussi des échelles pour évaluer par exemple la dépendance, le fait qu'on se sent incapable de faire les choses tout seul. Enfin, et puis il y a des tests globaux de personnalité, par exemple tous les tests qui tournent autour de ce qu'on appelle les 5 grandes composantes de la personnalité, qui là ne mettent pas forcément des diagnostics de personnalité toxique, mais permettent de voir par exemple si on est plus ou moins altruiste, plus ou moins agréable, c'est-à-dire avec le souci des autres, ou à l'inverse si on est assez dur et si finalement mettre les autres mal à l'aise ne vous pose aucun problème.
Oui, il y a C'est l'ensemble des outils pour cerner ces questions de personnalité, effectivement, se répartissent dans trois grandes catégories. En gros, il y a tout simplement l'observation. On a des critères, effectivement, dans nos systèmes de classification psychiatrique, en tout cas pour les personnalités psychiatriques, mais les psychologues font de même, des critères en disant, voilà, si la personne réagit de telle manière, si elle se comporte comme ceci, alors on la range plutôt dans telle classe. Après, il y a les questionnaires dont parlait François, qui sont des outils complémentaires qui permettent là d'évaluer la fréquence de ces troubles de personnalité dans des populations très vastes. On ne pourrait pas avoir des entretiens avec des milliers de personnes, mais on peut faire passer des questionnaires. Et puis, plus récemment, la neuroimagerie est arrivée à notre secours pour essayer de voir un peu ce qui se passait dans le cerveau de certaines personnalités. Donc ça, c'est encore très expérimental, hein. C'est vraiment pas d'usage courant, mais on commence à comprendre, notamment pour les personnalités psychopathiques, ce qui peut se passer dans leur cerveau.
Alors, qu'est-ce qu'une personnalité difficile ? Mon meilleur ami est plutôt méfiant, à quel moment bascule-t-il dans la personnalité difficile ?
Ah, ça c'est la question du seuil entre le normal et le pathologique, elle est au cœur de la psychologie évidemment, mais nous on a tendance à considérer que la personnalité difficile ou pathologique, c'est une personnalité qui a perdu sa flexibilité. Prenez le trait de personnalité, la méfiance. Il y a des moments où c'est normal d'être méfiant. Si vous achetez une voiture d'occasion à quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est mieux d'avoir un tout petit peu, d'activer un peu votre petit logiciel de méfiance, de ne pas croire tout ce qu'on vous dit, etc. Par contre, si vous êtes dans une soirée chez des amis, qu'on vous présente quelqu'un et que vous êtes méfiant avec ce quelqu'un a priori, vous dites « mais est-ce que c'est pas un pervers, un menteur, un escroc ?» Là, vous avez déclenché votre méfiance dans un contexte où, au fond, c'est peut-être un peu inadapté. C'est le problème, par exemple, des personnalités paranoïaques. Elles sont toujours méfiante et toujours suspicieuse qu'on prépare des choses contre elle, alors que la personnalité plus flexible ne l'est que dans des contextes appropriés.
François Lelort ?
Oui, alors ce que dit Christophe est très juste, ça dépend du contexte, et je dirais ça dépend aussi parfois du stress. Par exemple, prenons quelqu'un de méfiant, peut-être un peu plus que la moyenne, mais disons dans la vie, ça lui a plutôt servi à pas se faire avoir, là où d'autres se sont fait avoir. Et puis, il va aller dans une situation un peu stressante, voyager à l'étranger en comprenant très mal ou pas du tout la langue. Et là, à ce moment-là, sa méfiance peut s'exacerber peut lui devenir nuisible en évitant finalement des personnes qui pourraient l'aider, etc. Donc, on a tous effectivement une personnalité, comme dit Christophe, une manière assez stable et répétitive d'agir dans certaines situations, mais ça peut aussi s'exacerber ou se dégrader dans une situation stressante.
Si je vous comprends bien, toutes les personnalités difficiles sont déterminées par des croyances fondamentales, et à partir de ces croyances découle un ensemble de comportements hostiles et d'attitudes méfiantes concernant par exemple le paranoïaque.
Oui, oui, un ensemble de comportements, de croyances, de systèmes de pensée et d'émotions. Et effectivement, tout ça aboutit à de la souffrance, parce qu'un des critères effectivement qui permet de dire qu'une personnalité, que des traits de personnalité commencent à rentrer dans la zone, une zone pathologique, c'est leur rigidité et aussi la difficulté de la remise en question. Ce qui fait que nous ne sommes pas tous des grands narcissiques, des grands histrioniques, des grands paranoïaques, pardon, c'est qu'à certains moments, on s'interroge, on se dit, mais finalement, est-ce que hier soir, j'ai pas été un peu dur, quoi, avec ces gens, ou est-ce que mais les vrais troubles de personnalité, en tout cas pour les psychiatres, ont beaucoup de mal à adopter cette attitude de recul sur eux-mêmes et de remise en question.
Sébastien Boller, qu'est-ce qu'une personnalité toxique telle que vous la décrivez dans Cerveau et Psycho ? Toxique, c'est le nom masculin pour dire le poison, adjectif, qui agit comme un poison. C'est quoi une personnalité toxique ?
C'est une personnalité qui effectivement possède les caractéristiques que vient d'évoquer Christophe en termes de rigidité, c'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement mental qui se radicalise dans certaines attitudes, mais qui du coup ne provoque pas une souffrance pour soi, mais pour les autres. Et on retombe systématiquement, donc quand on a fait ce dossier, qu'est-ce qu'on peut appeler aujourd'hui une personnalité toxique, scientifiquement ? Et tous les interlocuteurs qu'on a contactés nous ont dit, on retombe sur le concept de psychopathie. Le psychopathe, c'est quelqu'un qui nuit aux personnes qu'il rencontre, qui leur fait du mal, qui les manipule, en grande partie parce qu'il a une notion, une appréciation de sa propre personne qui est disproportionnée. On retombe sur le narcissisme. Il va s'autoriser des comportements qui peuvent amener à écraser les autres, à les manipuler, en trouvant ça tout à fait normal, en s'auto-justifiant, en disant bah, « finalement j'ai le droit, je vaux plus que les autres ». C'est aussi quelqu'un en général qui est très charmeur, qui s'exprime très bien, qui gravit facilement les échelons, par exemple dans une société, dans une entreprise, parce que il présente bien, parce que il arrive à anticiper aussi les désirs des autres, donc à se mettre bien avec les gens. Et puis c'est quelqu'un qui, dans les formes les plus extrêmes, n'a pas du tout de scrupules, pas de sens moral, ne souffre absolument pas du fait de faire souffrir les autres. Donc il y a un problème d'empathie aussi qui surgit à ce moment-là. Et ces personnalités sont véritablement toxiques au sens où on ne les voit pas arriver. Progressivement, elles entrent dans votre vie et vous font souffrir, vous manipulent, vous emmènent dans des destinations qui peuvent vous être fatales, à détruire votre situation, votre famille. Et contre ça, il n'y a pratiquement rien à faire, si ce n'est commencer déjà par essayer de les repérer.
Christophe André, le DSM, hein, le manuel de psychiatrie de référence, parle de personnalité antisociale. Quelle est la différence fondamentale entre une personnalité difficile et une personnalité toxique ?
Ah, c'est sans doute une question d'intensité de la souffrance infligée, moi je dirais. En tout cas, il y a plein de regards possibles, mais tout de même, une personnalité toxique, c'est quelqu'un qui... Une personnalité difficile, c'est quelqu'un qui nous complique la vie.
Un casse-pied.
Voilà, c'est un casse-pied. Il n'y a pas que des psychopathes dans les personnalités difficiles. Il y a des gens narcissiques qui parlent trop d'eux. Il y a ceux qui se plaignent tout le temps. Il y a ceux qui disent toujours non. Il y a ceux qui font le show, qui à chaque soirée, ils monopolisent l'attention. Enfin, bref. Et puis quand même, les personnalités toxique, ce sont les mêmes personnes, mais à un degré de pathologie supplémentaire qui fait qu'elles sont carrément inarrêtables dans leur toxicité, dans leur comportement problème. Elles vont déclencher de la souffrance, soit intentionnellement, comme le soulignait Sébastien Boller, c'est-à-dire elles sont calculatrices, elles veulent obtenir des objectifs précis, et là, peu leur importe les dégâts que ça va provoquer en route, soit parfois sans s'en rendre clairement compte, simplement parce que c'est moi d'abord, et les autres, soit ils suivent, soit ils gémissent, mais ils ne m'intéressent pas du tout.
Allez, nous attendons toutes vos questions sur les personnalités difficiles et les personnalités toxiques au 01 45 24 7000, sans oublier la page Facebook de Grand Main Vous Fasse et l'appli France Inter. Alexia Rivière, Claire Destacan, Clara Marliot et Julien Macarès m'ont aidé à préparer cette émission réalisée par Stéphanie Texier. Je vous propose d'écouter une chanson de 2003. Cette année-là naissait l'activiste Greta Thunberg et disparaissait l'écrivain Maurice Blanchot. Le temps d'une chanson, souvenez-vous de ce que vous faisiez en 2003.
Britney Spears interprétait Toxic.
César a tout réussi, tout conquis.
Grand bien vous fasse.
Ne t'inquiète pas, un samouraï avec moi.
Sur France Inter.
10h22, personnalité difficile, personnalité toxique, quand faut-il fuir et quand faut-il composer, avec les psychiatres François Lelore et Christophe André et avec Sébastien Boller, rédacteur en chef de Cerveau et Psycho. Alors comme le rappelle Thierry Hacham, professeur de psychopathologie légale dans Cerveau et Psycho, la personnalité toxique regroupe potentiellement de nombreux types de personnalités, Sébastien Boller.
Oui, toxique, c'est un terme assez nébuleux. Effectivement, Thierry Hacham met dedans un petit peu beaucoup de choses. Il essaye d'ailleurs de pousser vers une définition assez stricte quand même. Mais il y a d'une part, effectivement, la psychopathie, qui est quelque chose de très bien défini, notamment grâce à une échelle dont on va peut-être parler, l'échelle de Haar. L'antisocialité. Qui est plutôt une analyse de la personnalité toxique dans ses débordements les plus spectaculaires, mais vraiment sur le plan du comportement. Des personnes qui vont avoir des comportements agressifs, de négation des normes sociales, sans forcément rentrer dans la psychologie. L'abord sous l'angle du psychopathe va plus rentrer dans la psychologie de la personne. Et puis il y a d'autres types de pathologies qui donnent des personnalités toxiques. Vous avez des personnes qu'on appelle les borderline, qui ont une labilité émotionnelle qui font qu'ils trouvent pas la bonne distance vis-à-vis de leurs interlocuteurs, qui ça peut donner des relations qui dégénèrent assez vite et qui peuvent faire du mal, effectivement.
À quoi reconnaît-on donc une personnalité toxique, un psychopathe social? On utilise l'échelle de Haar, c'est ça?
Oui, c'est une échelle donc d'évaluation, une sorte de questionnaire en 20 questions. Qui aujourd'hui fait autorité en psychiatrie pour savoir si une personne a plutôt basse ou plutôt haute dans l'échelle de psychopathie. Donc c'est des questions qui vont évaluer à la fois le narcissisme, la tendance d'une personne à se placer au-dessus des autres, les antécédents de violence qu'il a pu avoir dans sa vie, l'impulsivité, la tendance à manipuler. Donc c'est un bouquet comme ça de facettes de la personnalité qui se trouvent regroupées dans cette échelle de Haar.
Christophe André.
Oui. Ce qui est ennuyeux dans cette échelle de Haar, enfin ennuyeux avec la psychopathie en général, c'est que certains de ces traits que mesure l'échelle sont des traits charmeurs. Ouais. Effectivement, alors tous les psychopathes ne fonctionnent pas sur ce registre, mais les psychopathes qui ont pu avoir la chance de naître dans des familles où on leur a appris les bonnes manières, où on leur a permis de faire des études, etc., ils ne ressemblent pas aux psychopathes brutaux, tatoués de partout, dont on sent tout de suite qu'on va avoir des problèmes avec eux. Et ça commence effectivement par quelque chose de parfois assez séduisant. Assez séduisant, mais qui n'en cache pas moins une grande capacité à faire souffrir les autres par égoïsme, par manque d'empathie, par effectivement surévaluation de soi, de ses droits à ne pas respecter les lois et toutes sortes de choses semblables.
François Lelore.
Oui, ce qui aussi dit, comme disait Christophe, l'aspect charmeur, mais je veux dire la différence entre le psychopathe de conseil d'administration et le psychopathe de tribunal, c'est quand même souvent l'impulsivité, c'est-à-dire que le psychopathe, disons, de tribunal, c'est quelqu'un qui est effectivement charmeur, qui effectivement a peu d'empathie pour les autres, mais qui va finalement ne pas supporter la frustration et prendre ce qu'il a envie de prendre ou bousculer quelqu'un qu'il a envie de bousculer, et ça va se terminer assez mal pour lui, alors que le psychopathe qui a peut-être appris les bonnes manières ou qui a peut-être un équipement différent du fait de ses chromosomes, eh bien lui, il va apprendre à contrôler ses impulsions. Ce qui est un tout petit peu... C'est-à-dire que je trouve qu'on est passé de la personnalité narcissique puis au pervers narcissique, maintenant au psychopathe, et je me dis parfois, il y a peut-être un risque aussi de labelliser des gens, par exemple, narcissiques et dominateurs, comme on en trouve beaucoup, d'ailleurs, parmi même qui réussissent professionnellement, et leur donner tout de suite des étiquettes de pervers, de narcissiques, de psychopathes. Donc je pense qu'il faut faire un tout petit peu attention à ça.
Et oui, quand on évoque les personnalités toxiques, le pervers narcissique revient souvent dans les médias, dans de nombreux ouvrages publiés sur le sujet. La perversion narcissique est-elle une pathologie psychiatrique reconnue par l'Organisation Mondiale de la Santé et le fameux DSM, le manuel de diagnostic psychiatrique?
Non. C'est le pervers narcissique, c'est un concept qui est plutôt parti du monde de la psychanalyse, plutôt que de celui de la psychiatrie, qui correspond sans doute à une certaine réalité, mais qui, comme le disait François, a peut-être tendance à être un peu surutilisé parfois, mais il désigne des profils de personnalité effectivement narcissiques, donc imbues d'elles-mêmes, convaincues de leur supériorité, de leur droit à transgresser si elles estiment que ça vaut la peine, et avec les traits pervers, c'est-à-dire un certain plaisir tout de même à faire souffrir, un certain plaisir à dominer. C'est pas seulement dominer les autres pour atteindre ses objectifs, mais c'est aussi prendre plaisir à être le chef, prendre plaisir à humilier, prendre plaisir à manipuler, ce qui introduit encore une autre forme de dangerosité et de toxicité.
Alors il ne faut pas confondre une personnalité de type narcissique et un pervers narcissique, ouais. Mais quelles sont les principales composantes de la personnalité narcissique? Une personnalité souvent décrite comme difficile à vivre.
Ben, il y a d'abord l'inflation de l'ego. Hein. Le narcisse, c'est quand même quelqu'un qui s'aime beaucoup, qui se considère comme porteur de tout un tas de qualités. Il y a aussi malheureusement le relatif mépris des autres ou le peu d'importance accordée à autrui en regard de la grande importance qu'on s'accorde à soi. Et puis il y a aussi quand même les droits qu'on s'arroge, le droit de parler plus longtemps que les autres parce qu'on a des choses plus intéressantes à dire, le droit de les dépasser dans la file d'attente parce que notre temps est plus précieux, le droit de brûler les limites de vitesse parce qu'on conduit mieux, qu'on a une voiture mieux équipée. Enfin, ce trio-là, moi-je, peu m'importe les autres, et puis après tout, les lois, elles sont faites pour les gens qui ne sont pas comme moi. C'est un des trépieds de la personnalité narcissique, ou le grand trépied.
Alors, Christophe l'a très bien décrite, et alors il y a... On peut peut-être ajouter, enfin, c'est un peu ce qu'il a cité, mais c'est l'absence d'empathie. C'est-à-dire qu'un narcissique peut être très charmeur, peut avoir l'air de prendre en considération vos problèmes ou vos difficultés, mais en fait, ça ne l'émeut pas du tout. Il y a une absence d'empathie, parfois, qui est bien dissimulée. Et ce que disait aussi Christophe, c'est quand même le mépris profond des règles. Donc le narcissique va peut-être les respecter s'il ne peut pas faire autrement, parce qu'il n'est pas impulsif, il ne veut pas faire de bêtises. Mais fondamentalement, les règles ne s'appliquent pas à lui.
Mais quelle est ici la frontière avec le pervers narcissique ? Qu'on puisse bien comprendre les choses, Christophe.
Alors, le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui prend plaisir tout de même à rabaisser les autres, à leur nuire, et qui prend plaisir à exercer la relation toxique. Si je suis narcissique, les autres, c'est juste des obstacles ou des gens qui vont pouvoir me servir quand j'en aurai besoin. Je leur veux pas de mal. Je leur veux pas de bien, mais je leur veux pas de mal. Le pervers, il aime bien se greffer sur les gens, les exploiter, les dominer et créer une relation de dominance et de maltraitance durable, malheureusement.
On peut gérer une personnalité narcissique. En revanche, il est quasiment impossible de composer avec un pervers narcissique.
Oui, parce qu'il y a une intentionnalité de nuire, plus ou moins consciente et plus ou moins forte, qui vraiment représente un poison relationnel complet. Alors ceci dit, c'est pas toujours facile, hein, les grands narcissiques, de leur faire face. Hein. Regardez un des exemples les plus célèbres des gens comme Trump, qui, dès qu'ils ont atteint un certain niveau de pouvoir, dès qu'ils disposent d'un certain nombre d'outils, François parlait de l'impulsivité, l'usage des tweets, par exemple, c'est quand même un truc ravageur, quoi, pour les éructations psychologiques impulsives des narcissiques qui ont du pouvoir.
Question pratique, comment on compose avec une personnalité difficile comme une personnalité narcissique, François Lelor? Comment on fait? Comment on s'y prend?
Eh bien, je pense que, et Christophe, je pense, sera d'accord, la première chose, c'est qu'il ne faut pas remettre en question sa vision du monde. Faut pas lui dire, mais tu te prends pour quelqu'un de bien, mais t'es pas si bien ou t'es pas si fort, parce que là, vous heurtez son noyau dur, et ça va provoquer des réactions violentes. Donc, idéalement, c'est d'encourager quand il a des comportements qui vous conviennent, et puis de se retirer ou de désapprouver, mais en restant au niveau comportemental, en disant, bah écoute, la dernière fois, vraiment, t'as trop parlé en réunion, j'ai pas pu en placer une, t'avais des choses importantes à dire, c'est vrai. Alors, toujours le petit côté empathique, je te comprends, je sais que tu t'estimes supérieur, enfin, dit de manière un peu plus habile, mais moi, j'ai quand même des besoins. Au fond, lui rappeler un peu que les autres ont des besoins, que soi-même, on a des besoins, mais si possible, sans le heurter trop frontalement, parce que là, vous le dégraderez, en quelque sorte.
Giorgio, ça fait 10 ans que tu me menaces, puis que le lendemain tu me redemandes en mariage, puis que le surlendemain tu me promets de régler tes problèmes avec les impôts, et 4 ans plus tard c'est pas réglé, que tu vas changer de fréquentation, c'est du blabla tout ça.
Ah.
J'ai envie d'être heureuse, laisse-moi être heureuse si tu m'aimes, tu devrais avoir envie que je sois heureuse, donc laisse-moi être heureuse.
On t'a un mec, pas ? Viens.
Tu peux me le dire?
Oui, hein, j'ai un mec.
T'as un mec?
Oui, j'ai un mec.
Tu sais que Sinbad, tu le laisses entendre tout ça, hein.
Toi, t'es au courant que tu n'as plus d'emprise sur moi?
Tu fais ce que tu veux avec ton cul. Mon fils n'a pas à avoir un rapport avec un homme que je n'ai jamais rencontré.
T'es devenu dingue?
Non, je suis pas devenu dingue. Je ne suis pas devenu dingue.
Un exemple de manipulateur pervers dans Mon Roi de Mai Wen. Beaucoup, beaucoup de questions sur la détection de ces personnalités toxiques, Sébastien Boller.
Oui, c'est la clé, hein. Parce que on posait la question comment composer, si c'est un narcissique lambda, ça va, si c'est un pervers narcissique ou un psychopathe, ce que nous dit Thierry Pham, c'est que on peut pas trop composer parce qu'ils sont très très doués pour manipuler, donc si on veut essayer de manipuler, on rentre dans leur jeu, on se fait rouler dans la farine, et puis ça leur importe peu de faire souffrir, donc dire qu'on a des besoins, ça marche pas. Donc ce que nous dit Thierry Pham, c'est que d'une part, faut les détecter, donc faut repérer un certain nombre de critères. Alors vous avez dit tout à l'heure, c'est pas parce que quelqu'un est hableur, charmeur, qu'il est forcément pervers narcissique, c'est vrai. Il y a d'autres choses qu'il faut regarder. Il faut regarder si ce talent est mis au service de comportements qu'on peut repérer, par exemple, dans l'entreprise. Vous voyez quelqu'un qui dit une chose en réunion et puis le contraire en privé après, ou qui, de temps en temps, a des passe-droits ou va signer des documents qu'il n'a pas le droit de signer. C'est des faisceaux d'indices, comme ça, qui doivent combiner à la fois le côté loquace, charmeur, et puis le côté contradictoire, le fait de souffler le chaud et le froid, et les effets très délétères qu'on constate. Il faut avoir un regard critique sur ce qui se passe au niveau organisationnel aussi. Et à ce moment-là, que faire? Alors Thierry Pham, lui, nous dit, quand c'est un vrai pervers narcissique ou un vrai psychopathe, la posture conciliante qui consiste à prendre des pincettes, à dire, écoute, là tu vas trop loin, ça ne fonctionne pas. Ce qu'il nous dit, c'est qu'en fait, même le corps médical prend beaucoup trop de pincettes. Et ce qu'il a constaté, par exemple, en milieu pénitentiaire, c'est qu'il faut amener des gens avec la même charge d'agressivité que lui, à lui dire, écoute, je sais très bien ce que tu fais là, et si tu me cherches, tu vas me trouver. Et ça suffit, arrête de nous embobiner. Et ensuite mettre des barrières administratives, institutionnelles, des garde-fous qu'on voit par exemple dans la haute finance, ça a manqué de garde-fous à certains moments. Et on voit que dans les études faites à Wall Street, il y a des chiffres sur la proportion de psychopathes qui sont très très élevés.
Marie-Laure Zonshine.
Alors, pour vous faire sourire, selon diverses études en entreprise, 10% des effectifs sont des personnalités toxiques. Alors Ali, nous sommes 5 dans ce studio, 6 de l'autre côté de la vitre. Bon, ça on verra à la fin de l'émission qui parmi nous est cette personne-là. Mais plus généralement, est-ce que vous diriez que forcément en entreprise, on trouve ces personnalités toxiques dans le top 5, je dirais en haut de l'échelle? Est-ce que la personne au standard, le responsable commercial, le délégué syndical peuvent aussi être toxiques dans le public autour duquel ils œuvrent finalement? Est-ce qu'on est forcément au niveau hiérarchique supérieur pour trouver ces personnes-là?
Il semblerait que statistiquement, il y a une tendance quand même à avoir une surreprésentation des profils psychopathiques à des hauts niveaux de responsabilité. Ce que nous dit Thierry Pham, c'est que ça n'a pas été stricto sensu mesuré, mais d'après lui, c'est le cas. Parce qu'en fait, les facultés d'un psychopathe, de manipulation, de narcissisme, d'absence de remords et de scrupules, sont en fait des avantages pour s'élever dans une sphère de pouvoir. Et donc, c'est assez logique qu'on retrouve plus facilement ces personnes à des hauts niveaux de responsabilité.
En tout cas, il y a des traits de personnalité, là on ne parle pas forcément de personnalité pathologique, il y a des traits de personnalité qui sont favorables à la conquête du pouvoir. Il faut avoir un minimum, effectivement, de confiance en soi, un minimum de capacité de séduire, un minimum aussi de capacité d'intimider, un minimum de méfiance. Donc toutes ces choses-là sont nécessaires à la conquête du pouvoir. Alors, elles ne sont peut-être pas à un niveau pathologique chez tous les dirigeants, mais il y a quand même ces traits-là qui doivent être présents.
Ah, il est temps de retrouver vos chaussures, Christophe André.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Chose vue.
Le bénéfique, Christophe André.
Le monde est divers et varié. Comment pourrait-on s'y ennuyer? Prenez les humains, par exemple, et parmi eux, les casse-pieds. Il y a les autocentrés qui vous racontent tout d'eux, mais ne vous posent jamais la moindre question sur vous. Il y a les narcissiques qui vous font à chaque rencontre l'étalage de leurs compétences et de leurs succès et qui commencent toutes leurs phrases par « Eh bien moi, je ». Il y a les négativistes qui commencent les leurs de phrases par « Oui, mais non ». les plaintifs qui vous considèrent comme un réceptacle à jérémiade, les gros lourds qui insistent, les raconteurs inlassables de blagues et d'histoires qui embolisent et neutralisent toute forme de conversation intéressante. Le monde des casse-pieds est comme celui des insectes, d'une diversité infinie. Et comme les insectes, les observer et les étudier est quelque chose de très intéressant et même de très utile. Ne serait-ce que pour savoir s'en défendre lorsque ces casse-pieds deviennent des personnalités toxiques, susceptibles de nous faire souffrir et parfois même de nous détruire. Mais ce qui est très intéressant et aussi très utile, c'est de nous observer nous-mêmes face à eux. Par exemple, observer nos manières de nous comporter avec eux qui oscillent selon les moments, selon qu'on soit en forme ou non. Dans nos bons jours, quand on a bien dormi, qu'on est de bonne humeur, nous avons l'envie de les comprendre et la capacité d'avoir de la compassion pour eux. Nous pouvons nous rappeler cette belle phrase de Christian Bobin, « Quelle que soit la personne que tu regardes, sache qu'elle a plusieurs fois traversé l'enfer. » Nous pouvons nous souvenir du mot de Socrate disant « Nul n'est méchant volontairement » et nous convaincre que cela s'applique aussi, sans doute, aux casse-pieds. Mais dans nos mauvais jours, quand on a déjà notre lot de soucis et d'ennuis, ce n'est plus l'envie de les comprendre qui nous habite, mais celle de les fuir ou de leur remonter les bretelles. Parfois même, l'envie de les voir disparaître à jamais de notre univers.
Je serai content quand tu seras... Je serai content quand tu seras mort, vieille canaille. Tu ne perds rien pour attendre. Je saurais bien
de ne jamais faire rentrer un psychopathe dans son foyer.
Dans son cabinet.
Alors, face aux gens toxiques, avant d'être exaspérés ou épuisés, avant de nous dire « je serai content quand il sera mort », songeons peut-être à nous poser les bonnes questions à leur propos. Certes, le pourquoi compte. Pourquoi les personnalités toxiques sont-elles toxiques? Que s'est-il passé dans leur passé? Le casse-pied nous fait du mal parce qu'il va mal, c'est clair. C'est toujours bien de comprendre cela et d'en tenir compte, mais c'est aussi risqué si on en reste là. Pourquoi supporter un pervers comme conjoint au prétexte qu'il a eu une enfance malheureuse? Alors, après le pourquoi est-il comme ça, vient le temps du comment. Comment se fait-il que rien ne change? Comment résonnent les personnalités toxiques? Comment les transformer ou comment s'en protéger? Comment faire, tout simplement? Il y a de nombreuses options que l'on peut résumer en quatre grandes directions. Premièrement, on peut entreprendre de les aider à changer leur personnalité. De l'avis général, mieux vaut laisser ce travail difficile au thérapeute. Deuxièmement, on peut, ce qui est plus réaliste, s'occuper de changer leur comportement, problème avec nous, leur signaler que ces comportements nous dérangent, ouvrir le dialogue à ce propos. C'est déjà un chantier ambitieux qui requiert beaucoup de ténacité et d'affirmation de soi. Troisièmement, on peut aussi préférer la protection de soi et s'attacher à les tenir à distance et à s'en écarter chaque fois que c'est possible. Quatrièmement, il y a enfin ce à quoi on pense moins souvent, on peut s'inspirer des casse-pieds. Oui, s'en inspirer. Les personnalités toxiques sont de très bons contre-modèle. Si quelqu'un nous agace, une bonne idée est de bien l'observer pour chercher à lui ressembler le moins possible. Et donc, commencer par chercher en quoi, sans nous en rendre compte, nous lui ressemblons peut-être un peu. Comme l'écrit cruellement La Rochefoucauld, si nous n'avions point de défauts, nous ne prendrions pas tant de plaisir à en remarquer chez autrui. Voilà au moins un service que ceux qui nous dérangent peuvent nous rendre. Par exemple, vous, Ali, ils vous inspirent et vous aident à progresser, les casse-pieds et autres personnalités toxiques de votre quotidien?
Oui, grande source d'information et d'inspiration.
Alors, on ne veut pas de nom, surtout pas.
Les choses vues de Christophe André à voir en vidéo sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Mal Vous Fasse. Allez témoigner sur les personnalités toxiques que vous avez pu croiser dans votre vie ou les personnalités difficiles que vous côtoyez au quotidien. 01 45 24 7000.
Mon amour, je dois courir, mais je ne sais qui ni quoi. Je cours après ça. Je sais qu'il y a des choses à fuir, il y a 100 000 regards à éviter. Je reviendrai conquérir lorsqu'ici tout sera droit et redressé. Je pars à demi-sourire, mais crois-moi, je ne fais vraiment pas exprès. Odyssée. pas remuer le passé. J'ai peur que de moi t'en aies assez. Ça, Odyssée. Même si tu dois disparaître, promets-moi de ne rien effacer. Ça, Odyssée. Odyssée.
Kerenan interprétée Odessa Odyssée.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebi.
10h43, personnalité difficile, personnalité toxique, quand faut-il fuir et quand faut-il composer avec les psychiatres François Lelor et Christophe André et avec Sébastien Boller, rédacteur en chef de Cerveau et Psycho. Ricky nous dit « Mon papa est malheureusement une personne toxique, c'est une personne proche de mon entourage qui m'a permis de voir cela lorsque j'avais 11 ans, mais malgré tout cela, cela m'a pris 30 ans avant de réaliser pleinement ce fait. En effet, c'est très difficile d'admettre qu'un de nos parents est une personne toxique. » Bonjour Karine.
Oui, bonjour Ali.
Bienvenue dans l'émission.
Merci, merci beaucoup de prendre mon témoignage.
Alors vous aussi, vous avez une mère toxique.
Excusez-moi.
Vous aussi, vous avez une mère toxique. Vous avez un parent toxique.
Oui, alors j'ai une mère toxique. Je m'en suis rendu compte très tard. En fait, ma maman nous a élevés, moi et mes frères, toutes seules. Et elle tombait malade quand j'avais 10 ans. Mmh. Elle a eu une grave maladie. C'était sa maladie qui devait primer sur tout. Bon, alors évidemment, quand j'avais 10 ans, je m'en suis pas rendu compte. Mais au fur et à mesure des années, il fallait que je m'occupe d'elle, que je sois près d'elle. Donc, j'ai pas vécu vraiment d'adolescence. Mmh. J'essaie de résumer. Mais voilà, il fallait que... C'était elle qui passait en premier. Et donc, en devenant une jeune adulte, j'avais pas beaucoup d'amis à qui je parlais de ça, parce que ça avait été très dur pour moi d'avoir une mère avec un cancer. Donc, elle a appliqué une manipulation sur moi, en fait. Chaque fois qu'elle allait mal, il fallait que je sois près d'elle, que je lui prépare son café, que je lui mette son vernis. Mais moi, je m'effaçais, par contre. Mmh. Et jusqu'au jour où je me suis mariée, et donc j'ai vécu avec elle toutes ces années, hein, pour rester près d'elle, justement. J'ai pas pris d'appartement parce qu'elle était malade. Donc quand je me suis mariée vers 30 ans, là, elle a pété les plombs. Parce qu'en fait, elle aurait voulu que je reste vivre avec elle. Elle m'a dit, mais pourquoi tu m'abandonnes? Enfin voilà, c'était comme ça. Bon, évidemment, tout ça c'était ponctué d'insultes. Ça pouvait aller jusqu'à la violence physique quand elle n'était pas contente. Et puis après, même jusqu'à 30 ans, après, elle me disait, mais non, c'est pour ton bien, c'est parce que je veux t'éduquer, que tu sois quelqu'un de bien. Donc c'est pour ça que je veux te remettre dans le droit chemin. Et donc après mon mariage, mon mari m'a dit, bah, c'est pas normal que tu passes autant de temps avec ta mère. Donc c'est soit moi, soit ta mère. Donc là, je me suis dit, bon, bah, je vais pas passer toute ma vie avec ma mère, quoi. Et là, ça a été l'enfer. Elle a fait des accusations contre nos maris. Elle est partie porter plainte au commissariat, comme quoi elle inventait des choses, comme quoi il l'avait insultée, voilà. Ensuite, elle a trouvé une façon de m'attaquer en justice, tout en me disant que c'était pour mon bien, qu'il fallait comme elle est malade, que je lui devais assistance sur plein de choses, qu'elle était Voilà, mais c'est pas fini, hein, toutes ces histoires de justice.
En tout cas, j'aimerais bien entendre l'avis de Christophe André. Là, on est au-delà du casse-pied, au-delà de la personnalité difficile, un peu, que vous décriviez tout à l'heure. Là, on a affaire à une personnalité toxique.
Personnalité toxique, relation toxique. Ce qui est intéressant dans ce que décrit Karine, qu'elle a compris aujourd'hui, enfin, après beaucoup d'années de flou, d'incertitude, de culpabilité, c'est comment certaines personnalités toxiques, au fond, ont tendance à partir de comportements normaux et légitimes. Tu es ma fille, je suis malade, donc j'attends de toi de l'aide, ça c'est normal. Et pour peu à peu transformer ces attentes en servitude. Et ça c'est un trait aussi des personnalités toxiques et des personnalités pathologiques, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, lorsqu'on est un peu leur victime, entre guillemets, on ne sait plus très bien quoi, où est le normal, où est le pathologique. On a ça souvent dans les histoires de couple où au fond, le conjoint jaloux dit, mais non, mais je te surveille parce que je t'aime. Enfin, et il y a une grande confusion entre est-ce qu'il m'aime ou est-ce qu'il veut me posséder, me dominer, tout comme pour Karine et sa maman. C'est jusqu'où dois-je aller pour être une bonne fille? Qu'est-ce qui est légitime? Et si on n'est pas capable de casser un petit peu et de discuter, parce que le problème, au fond, on parlait tout à l'heure de comment se rendre compte qu'on est dans une relation toxique, c'est d'abord en écoutant son malaise, est-ce que je me sens heureuse quand j'ai aidé ma mère, ou est-ce que je me sens toujours frustrée, déprimée, à côté de ma vie? Et deuxièmement, est-ce que je peux en parler? Est-ce que je me sens libre d'en parler à la personne sans que ça déclenche une guerre atomique, un scandale, une tentative de suicide? Et là, on est dans la toxicité si ça n'est pas le cas.
Karine, comment vous vous êtes sortie de cette relation toxique?
Ah, mais je m'en suis pas encore sortie, en fait. J'ai commencé à voir un psychologue. Enfin, j'ai été voir le psychiatre, plutôt, que ma mère allait voir à l'époque pour lui poser des questions. J'ai fondu en larmes devant lui. Je lui ai dit, voilà comment ça se passe avec ma mère. Et là, ça m'a rassurée parce qu'elle m'a dit, écoutez, je peux pas vous dire ce qu'a votre mère, mais votre mère n'est pas tout à fait normale avec vous, quoi. Elle a un comportement qui peut être... Enfin, je sais plus quel terme elle a pas dit... Elle n'a pas dit toxique ni pervers narcissique, mais je sais plus ce qu'elle a dit. Et là, j'ai commencé à lire, en fait, pas mal de livres sur les pervers narcissiques. J'ai fait un test, alors c'est pas le même test dont vous parliez, sur 27 caractères du pervers narcissique. Et je crois qu'elle en a, je crois que c'est 27 et il n'y a que 3 traits de caractère qui ne sont pas vraiment chez elle.
Karine, je vous propose d'écouter Grégory Michel. Grégory Michel est psychologue clinique, professeur de psychopathologie à l'Université de Bordeaux. Bienvenue Grégory Michel.
Bonjour Ali,
bonjour à tous. Face à une personnalité toxique, un psychopathe social, la meilleure solution c'est de fuir ce type d'individu délétère, parce qu'il est quasiment impossible de le changer, de la changer, et mieux vaut ne pas s'épuiser à les gérer.
Oui, alors quand on peut effectivement les fuir, la grosse difficulté c'est justement de pouvoir être amené à vivre finalement avec une personne qui a justement ce type de caractéristiques. Lorsqu'on a nos parents qui peuvent présenter ce type de fonctionnement, c'est difficile de fuir, parce qu'il y a justement, comme le disait Christophe André, il y a une sorte un peu de conditionnement qui fait que justement leur comportement va être associé à des marques, on va dire, d'amour, c'est-à-dire si je me comporte de cette manière-là, c'est aussi parce que je t'aime. Donc ce conditionnement fait que du coup ça place forcément l'individu et l'enfant dans une situation très compliquée. C'est-à-dire que à la fois c'est une mère qui fait du mal, mais c'est en même temps une mère qui peut sauver. Elle a effectivement ces deux fonctions-là qui créent effectivement une ambivalence. Donc une ambivalence qui est difficile à exprimer, à verbaliser, qui est difficile bien sûr à reconnaître. Et quand on a effectivement un proche et justement c'est quelque chose qui peut se retrouver dans une relation de couple aussi, hein, c'est difficile de fuir. Quand on peut fuir, il faut fuir parce que effectivement ce type de personnalité est une personnalité très très compliquée, on va dire, à traiter et à changer.
Que pourriez-vous,
puisqu'il y a des aspects, on va dire, structuraux, quoi.
Que pourriez-vous conseiller à Karine?
Pardon?
Que pourriez-vous conseiller à Karine?
Je pense que le travail effectivement psychologique qu'elle fait est un travail qui est extrêmement bénéfique, j'espère, pour elle, dans la mesure où elle va peut-être aussi du coup s'éloigner de cette problématique finalement que je soulignais, c'est-à-dire cette relation un petit peu d'ambivalence dans laquelle finalement elle estime être peut-être partie prenante dans ce que sa mère finalement induit chez elle, c'est-à-dire sa mère, elle a sa personnalité, elle a son fonctionnement. et elle a un fonctionnement qui est aussi presque indépendant d'elle, c'est-à-dire que c'est sa personnalité. Elle utilise effectivement sa fille pour, entre guillemets, se narcissiser, puisque finalement la composante de ses personnalités, c'est une pathologie du narcissisme, c'est-à-dire des personnes qui, entre guillemets, se font valoir un peu aux dépens de l'autre, quoi, qui se nourrissent un petit peu effectivement du narcissisme de l'autre.
Merci beaucoup Karine d'être intervenue. Bienvenue Vincent, vous restez avec nous, Grégory Michel. Bienvenue Vincent.
Oui, bonjour.
Alors vous, vous avez eu affaire à une personne toxique dans votre entourage ?
Oui, alors moi j'ai, par rapport au témoignage de Karine juste avant, en fait moi je me suis rendu compte que mon ex-épouse était toxique avec notre fille. J'ai eu les premiers doutes quand notre fille avait deux ans, un petit peu plus de deux ans, où la petite m'a dit « mais pourquoi maman elle est méchante ?» Et bon, moi j'ai essayé de tempérer parce que je trouvais pas spécialement les agissements méchants. Et puis au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que la petite a grandi, est devenue de plus en plus autonome, de plus en plus curieuse, etc. Là, je me suis rendu compte qu'effectivement, de la part de sa mère, il y avait une volonté, alors je dirais pas de destruction, mais en tout cas d'emprise totale, que la petite fille devait être avant tout un faire-valoir pour elle, mais pas autre chose que ça. Et donc, du coup, il y avait une emprise totale sur ses jeux, sur le soin qu'on pouvait lui apporter, sur son apparence, sur les apprentissages. Tout ça devait être totalement maîtrisé et freiné, anéanti, quoi.
Grégory Michel.
Comment ?
Grégory Michel, peut-être une réaction sur le témoignage de Vincent ?
Oui, on est effectivement dans un cas de figure où, le parent peut instrumentaliser, on va dire, l'enfant comme un objet qui va lui permettre aussi de se narcissiser, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas reconnu, on va dire, par ses singularités, parce qu'il est réellement, mais peut-être par la façon dont il peut servir, entre guillemets, on va dire, l'adulte et le parent. Donc on est quelque chose qui renvoie effectivement, et ça a été dit par monsieur, à une relation, on va dire, d'emprise, hein, où véritablement l'enfant n'est pas reconnu par ce qu'il est, mais plus comme un moyen, comme un instrument effectivement pour renarcissiser, pour faire du bien, pour soutenir, on va dire, le parent. Donc là, on est effectivement dans une relation extrêmement délétère, évidemment.
François Delors.
Oui, ces deux exemples sont à la fois tragiques, émouvants, mais justement, ce qu'on entend là, c'est vraiment la dimension narcissique, c'est-à-dire mettre sa fille ou mettre à son service, quoi, parce que finalement, on a des besoins, on mérite d'avoir quelqu'un à son service ou d'avoir quelqu'un qui vous valorise. Et ce qu'on lit derrière ça, c'est effectivement la peur d'être dominé ou d'être abandonné, qui est quand même souvent le cas. On parle des personnalités toxiques, mais elles sont aussi toxiques pour elles-mêmes. Et les narcissiques vivent quand même dans la crainte d'être dominés ou abandonnés. Et là, je ne parle pas des pervers narcissiques, parce que je crois pas que ces deux parents avaient plaisir à faire souffrir leurs enfants. Simplement, leurs besoins leur paraissaient vitaux. Donc c'est juste ce petit bémol, parce que quand on a écrit ce livre il y a longtemps avec Christophe, on a reçu des lettres disant « Archec Dorteur, merci, grâce à vous, j'ai enfin compris que mon mari est un pervers narcissique, paranoïaque, etc. » Et on répondait « Oh, attendez, madame, vous ne pouvez pas faire un diagnostic comme ça, voilà. »
Merci beaucoup, Vincent, d'être intervenu dans l'émission.
Simon ! Va lui parler.
Mais enfin, Mouchi, tu vois pas qu'on est en...
Je te dis, va lui parler. Ou alors tu me dis carrément que tu préfères que j'ouvre le robinet du gaz. Mais alors tu dis tout de suite, hein ? Bonjour, Étienne. Vous dérangez pas.
Quelle est belle, toujours belle, hein.
Qu'il est flatteur, celui-là.
Mouchi.
Écoute, je reçois une lettre, je te jure innocente. Pas un mot qui dépasse. D'abord, tu la liras. J'ai rencontré ce garçon chez des relations. Jusqu'à présent, on est en République, il peut m'écrire, non ?
Maman.
Eh bien, l'autre, il me fait pas un drame tragique.
Mais Mouchi.
Mais vous avez le droit.
Pourquoi tu nous dis ça, nous ?
Mais dis, si je peux pas chercher un peu de chaleur chez mon fils, qu'est-ce qui me reste ? Tu veux me le dire ? Toi aussi, tu veux que je te débarrasse, hein ?
Mais non, mais tu arrives comme ça sans prévenir, la maison s'écroule. Qu'est-ce que je peux faire ? On était là, il n'y avait pas de bruit.
Ah bon ? Parce que maintenant, il faut que j'écrive pour venir. Alors que j'habite à 20 cm, il faut que je prenne rendez-vous.
Tu n'as aucune pudeur ou quoi ?
Moi, j'ai pas de pudeur. Là, qui tu parles ? À ta mère ou à madame Luberon ?
Quelle madame Luberon ?
Moi, j'ai pas de pudeur.
Où, madame Luberon ?
La géniale Marta Vilallonga dans Un éléphant, ça trompe énormément. Alors, voici un bel exemple de personnalité histrionique qui peut nous rendre la vie difficile, Christophe André. C'est quoi les principaux traits de la personnalité histrionique?
Histrionique, c'est quelqu'un qui se met, qui en se scène. Donne un peu en spectacle, qui met ses émotions, ses besoins, sa personnalité en scène, qui a besoin, au travers de ce comportement, d'attention, d'amour, de reconnaissance. Donc là, c'est parfait. Alors,
on peut rire là de cette personnalité difficile. Il est beaucoup plus difficile de rire des témoignages que nous venons d'entendre sur des parents toxiques.
Ah ouais, ces témoignages de Vincent et Karine sont des témoignages très douloureux. Là, on voit que sur certains profils de personnalité, on peut adopter un regard un peu distancié, un peu humoristique. Sachant quand même que ce film est vieux, c'est-à-dire je crois qu'il y a eu une époque où on acceptait de sacrifier une grande partie de sa vie à ses parents. Aujourd'hui, la société a changé et ça ferait peut-être moins rire les jeunes générations, ce genre de sketch.
François Lelor.
Mais oui, parce que justement, nous devenons de plus en plus narcissiques, donc nous supportons de plus en plus le narcissisme des autres.
Grégory Michel, en quelques mots, peut-on détecter précocement une personnalité toxique, un psychopathe social? Est-ce que c'est possible? Quels sont les signes qui doivent nous alerter?
Oui, alors il y a des traits effectivement maintenant qui sont reconnus là depuis une quinzaine d'années par notamment l'intermédiaire de travaux de collègues américains, l'équipe de Freak par exemple, qui ont permis justement de détecter ce qu'ils appellent, on va dire, des traits tempéramentaux, c'est-à-dire des traits qui sont repérables précocement avant l'âge de 10 ans, qui sont des traits qui s'intitulent, on va dire, des traits callous and emotional, c'est-à-dire les traits CU qui se caractérisent par une sorte de froideur affective, de détachement émotionnel, alors vraiment en profondeur, alors que finalement ces enfants peuvent faire preuve, on va dire, de séduction, de manipulation, et ça c'est effectivement des traits qui sont souvent associés justement à, bien sûr, une absence de remords, de culpabilité, et donc aussi à des comportements qui peuvent être antisociaux, soit des comportements antisociaux qui sont explicites, c'est-à-dire donc voilà, des comportements qui peuvent prendre l'allure de comportements violents, mais ça peut être aussi des comportements que nos collègues américains appellent plutôt des comportements plutôt covert, plutôt dissimulés, comme des mensonges, de la dissimulation, etc. Et on sait que ce type de traits de tempérament, c'est quand même des tempéraments qui sont à risque. Alors, ne soyons pas non plus dans une logique effectivement déterministe. Bien évidemment, les trajectoires développementales vont faire mentir effectivement le repérage de ce type de caractéristiques, mais on sait en tout cas que ces caractéristiques, c'est quand même des caractéristiques qui sont très fortement associées à des personnalités toxiques, personnalités narcissiques, psychopathiques et autres.
Merci Grégory Michel. Pour conclure, en quelques secondes, on peut composer avec une personnalité difficile. Il faut plutôt fuir, quand on le peut, une personnalité toxique. Christophe André, pour le dire vite.
Oui, c'est une bonne synthèse. Et puis toujours éviter de rester seul. Parler à des proches, raconter, voir un petit peu les conseils qu'on nous donnerait.
Sébastien Boller.
Fuir, et puis fuir, mais quand? Fuir assez vite. Il y a des gens qui s'aperçoivent au bout de 10 ans, qui se sont pas rendus compte qu'ils étaient sous cette emprise, et ils mettent beaucoup de temps, ça devient des convalescents ensuite, ils mettent beaucoup de temps à se reconstruire.
François Lelor.
Oui, alors quand c'est une nouvelle rencontre, je pense que c'est important de faire attention aux petits comportements, parce que les petits comportements narcissiques pervers peuvent se voir dans des tout petits détails. Et donc il faut y être attentif avant de se laisser engager.
Merci François Lelor. Christophe André, on peut lire avec profit en poche comment gérer les personnalités difficiles. Sébastien Boller, le tout nouveau numéro de Cerveau et Psycho, consacré aux personnalités toxiques, est disponible en kiosque. Demain, on s'intéresse aux comportements des animaux qui peuvent inspirer notre manière d'éduquer nos enfants et nos adolescents.